Vous êtes avec SBS French. Retrouvez les rubriques sur sbs.com.au/french.
Europa Voice numéro 172 en cette fin d'année 2025 et toujours avec mon ami Nathanaël Blog. Salut Nathanaël.
Salut Christophe, on s'approche de la fin d'année là.
Hein. Eh oui, ça arrive, on n'a jamais été aussi près hein, de la fin de l'année. Ça, c'est, je pense que techniquement on peut dire ça, c'est au plus près du mur qu'on voit mieux le mur, hein, le fameux proverbe chinois. On a deux sujets aujourd'hui dans notre Europa Voice, bien entendu les réseaux sociaux et les nouvelles lois en Australie qui ont ou pas un impact en Europe, ou pas un impact dans le monde. On va débattre de ça. Et puis, on parlera de quelque chose qui est un peu une Madeleine de Proust en ce moment. C'est le budget en France. Quid de ce budget qui est là, latent depuis un bon moment en France, mais c'est en deuxième partie. Tout d'abord, Nathanaël, vous êtes père de famille. Je suis père de famille. Et en Australie, eh bien, il y a une nouvelle donne. Les enfants de moins de 16 ans, on peut dire les enfants, hein, donc les ados, les enfants de moins de 16 ans, n'ont plus le droit aujourd'hui, en ce moment même hein, où on se parle, d'accéder aux réseaux sociaux. Pourquoi cette loi, elle est si importante au niveau australien, mais au niveau européen, au niveau mondial?
C'est une loi, Christophe, qui est importante au niveau mondial, parce que si c'est une première, cette interdiction des réseaux sociaux pour les moins de 16 ans, c'est quelque chose qui est dans les tuyaux en Australie maintenant depuis quelques années. Il y a ce qu'on appelle un commissaire sur les questions de safety, sur les questions de réseaux sociaux qui travaillent sur ces sujets-là. Mais c'est une première au niveau mondial et surtout c'est important, Christophe, parce que en le mettant en place, en fait, l'Australie donne un petit peu le la d'une tendance qui est pour le coup globale. C'est-à-dire que même en Europe, et on y reviendra dans quelques instants, c'est une approche ou en tout cas c'est un sujet de discussion. Cette interdiction ou cette restriction des réseaux sociaux pour un public jeune. Et puis, nous, on le pose, hein, vous avez posé, Christophe, cette question, j'allais dire, depuis le point de vue des consommateurs, mais il faut aussi le prendre du point de vue de la relation qu'ont les États avec ces plateformes, parce que l'interdiction, c'est pas simplement d'aller accéder aux réseaux sociaux. L'interdiction, elle est plus grande que ça, Christophe. L'interdiction, c'est que ces plateformes-là, au rang desquelles Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, Snapchat et Reddit, ont l'interdiction de conserver des comptes d'utilisateurs déjà existants, qui ont moins de 16 ans. Donc, c'est pas seulement interdire la création de nouveaux comptes, mais c'est également l'interdiction de conserver les comptes existants. Et ça, c'est vraiment la première au niveau mondial.
Ça c'est intéressant parce que, et vous le dites à juste titre, c'est vrai que jusqu'à présent, je crois que Instagram, la limite d'âge était 12 ou 13 ans. Enfin, il fallait avoir au minimum 12 ou 13 ans pour avoir un compte. Si aujourd'hui, vous avez ouvert un compte il y a 2 ans, que vous aviez 12 ans, vous avez 2 ans de profil, ça c'est perdu. Faut que ce soit effacé. Et l'amende est lourde. L'amende est aux alentours de 50 millions de dollars, je crois. Donc c'est vraiment un coup de force, un coup de poing sur la table des autorités australiennes.
C'est un coup de force de la part des autorités australiennes. C'est aussi un coup de force, j'allais dire, qui est appuyé par le politique. C'est-à-dire que en Australie, le Premier ministre Anthony Albanese vraiment soutient cette mesure. Il l'a dit, hein, les réseaux sociaux, et je le cite, sont utilisés comme une arme par les harceleurs, sont vecteurs d'anxiété, constituent un outil pour les escrocs et pire que tout, sont un outil pour les prédateurs en ligne. Fin de la citation du Premier ministre Anthony Albanese. Et c'est intéressant aussi parce que c'est aussi à l'image de la société, Christophe. C'est-à-dire que cette question de harcèlement, on sait que ces questions-là en Australie, la question aussi de la santé mentale, et puis les dommages hein, qu'ont fait le Covid et l'enfermement australien, on sait que ces questions-là, elles sont extrêmement importantes ici. Et c'est aussi pour ça que le politique, en l'occurrence Albanese, soutient pleinement ces mesures-là, qui, encore une fois, sont arrive actuellement en Australie, mais non seulement sont une première mondiale, mais aussi surtout donnent un petit peu le ton de ce que des futures législations pourraient être en dehors de l'Australie et notamment au sein de l'Union européenne.
Et ce qui est aussi un point, je pense, et vous l'avez un petit peu effleuré dans les discussions, c'est que il y a un rapport de force avec les réseaux sociaux et je dis pas simplement Meta, mais tous les réseaux sociaux, hein, Twitter, Snapchat, etc., avec les gouvernements. Et on l'a vu il y a quelques années quand les réseaux sociaux avaient décidé d'inclure ou non certains sites de news ou pas de news, c'était de l'info, c'était pas de l'info, c'était de l'actu. Et on sentait que le rapport de force était du côté de ces réseaux sociaux qui sont d'ailleurs à 90%, et j'extrapole un peu, américains. Et le rapport de force était de ce côté-là. Là, on sent que, ou est-ce qu'on peut sentir qu'au niveau gouvernemental, on tape du poing sur la table, mais on rappelle qui est le boss. On rappelle qui est le boss ici, pour faire un raccourci, et que la loi doit pas être dictée à partir de réseaux sociaux ou d'entreprises américaines pour des sujets, entre guillemets, australiens. Et est-ce qu'on n'est pas aussi dans ce rapport de force-là?
Alors, je dirais, Christophe, qu'il y a plusieurs éléments de ce point de vue-là. D'abord, dans la question du rapport de force, ces mesures-là, elles sont largement populaires. C'est-à-dire que, si on prend l'exemple européen…
Même l'opposition est pour. Même l'opposition australienne.
Oui, voilà, l'opposition, mais je veux dire même au sein de la population. C'est-à-dire que la population, les parents, vous l'avez mentionné, les écoles, les autorités éducatives, la population en général… Et encore une fois, en Australie, mais on a aussi des sondages en Europe, avec 90% des Européens estiment qu'il est urgent d'agir sur ces questions de régulation des réseaux sociaux. Donc la population est largement alignée avec ces mesures-là. En fait, si vous voulez, les seuls qui pourraient ne pas être alignés, ce sont les enfants eux-mêmes ou ce sont les partisans libertaires des réseaux numériques. Donc déjà, ces mesures-là, on sait qu'elles ont potentiellement un soutien populaire important. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, vous l'avez très bien mentionné, et c'est notamment dans la bataille autour des news, de l'information, l'Australie n'en est pas à son premier coup d'essai en termes de taper du poing sur la table face aux réseaux sociaux par rapport à la question des données, par rapport à la question de la monétisation de l'information. Donc, en fait, ce qui se passe en Australie, ce n'est pas une première dans le sens… où c'est la première fois que les gouvernants se confrontent aux réseaux sociaux. Ça a eu lieu il y a quelques mois de cela et c'est probablement pas fini. Et puis le troisième élément, Christophe, qui est de plus en plus important, c'est que on le voit bien, les questions de ce qu'on pourrait appeler de level playing field, donc c'est-à-dire les questions de jouer à armes égales, être capable de réguler autant qu'on régule soi-même sur le marché intérieur, toutes ces questions-là, elles vont au-delà des réseaux sociaux. C'est-à-dire que les États, de plus en plus, je ne vais pas dire par nationalisme, mais en tout cas parce qu'il y a une concurrence de plus en plus féroce, parce qu'il y a des acteurs étrangers, vous l'avez mentionné, hein, ces réseaux-là, ils ne sont pas australiens, ils sont américains, ils sont chinois. Donc, pour être capable aussi de réguler et de peser face à cette compétition mondiale, les États et l'Australie, en l'occurrence, n'ont pas d'autre choix que de réguler davantage, et c'est ce qui se passe sur cette question-là des réseaux sociaux. Donc, ce sont vraiment ces trois éléments qui font que l'Australie, mais à mon avis de manière plus générale dans les mois qui viennent, vont réguler de plus en plus et contraindre ces acteurs extra-étatiques à se plier à leurs règles à eux.
Alors, là-dessus, j'aurai deux questions. Une qui sera technique, mais tout d'abord, je vais rester sur le point de vue politique. Qu'est-ce que ça veut dire pour l'Europe, ça? Est-ce que le feu est dans la grange si on est une entreprise de réseau social américaine et on se dit il faut absolument pas que ça se propage ailleurs? Est-ce qu'il y a du lobbying qui est exercé au sein de l'Union européenne, au sein des autres pays? On peut penser aux États-Unis, bien entendu, pour éviter que ça, il y ait une certaine contagion de ces idées et contagion de ce format-là, parce que on sait que, par exemple, les paquets génériques de cigarettes ont été inventés en Nouvelle-Zélande et en Australie. Ça s'est propagé à peu près partout dans le monde. Est-ce que ça veut dire qu'on est à l'aube de voir une propagation de lois comme ça? Est-ce que ça ouvre les esprits dans certaines parties du monde et peut-être un peu plus en Europe, vu qu'on s'occupe avec notre émission s'appelle Europa Voice tout d'abord.
Alors, ce qui est intéressant, Christophe, c'est que, en fait, finalement, en Europe, là, le Parlement européen et les députés européens donnent cette impression de se mobiliser beaucoup plus prestement sur le sujet. Ce qui veut dire aussi quoi, Christophe? Ce qui veut dire que s'il y a quelque chose qui se passe au niveau de l'Union européenne, c'est-à-dire qu'il y a une loi qui est votée, les parlements nationaux n'auront d'autre choix que de l'appliquer. Ce qui s'est passé là très récemment, c'est que le 26 novembre dernier, les députés européens ont adopté un rapport non législatif à une large majorité, ça c'est important de le préciser parce que c'est 30 groupes et c'est à une large majorité, proposant de fixer déjà à 16 ans l'âge minimum harmonisé dans l'Union européenne pour accéder aux réseaux sociaux ou aux plateformes de partage de vidéos. Et entre 13 et 16 ans, il faut le consentement parental. Donc, c'est-à-dire que les choses, vous le voyez, hein, Christophe, les choses, alors, c'est pas encore contraignant, hein, c'est un rapport non législatif, mais c'est-à-dire que, au vu de ce qui se passe en Australie et au vu de ce qui se passe dans le monde, les députés européens prennent bien la mesure qu'eux-mêmes doivent réguler s'ils ne veulent pas eux-mêmes être régulés. Ça, c'est la première chose. Et puis, la deuxième chose que je pourrais dire au niveau européen, c'est que de toute façon, on réfléchit à ces questions-là dans un cadre plus global, qui est notamment celui de la vérification de l'âge des mineurs. Et notamment avec un projet qui s'appelle le portefeuille numérique européen, où la question sera comment est-ce qu'on peut stocker au même endroit ces données numériques, et notamment ceux qui permettent de l'identifier. Parce que la question, elle est là, Christophe, aussi. Elle est pas simplement de faire voter cette loi, elle est aussi comment est-ce qu'on pourra être sûr que finalement l'utilisateur derrière la plateforme, on l'a identifié correctement et que c'est bien un majeur ou que c'est un mineur. Parce que ça, c'est la deuxième partie aussi. C'est-à-dire que maintenant, la question, très bien, il y a eu cette volonté politique de faire voter cette loi en Australie et surtout qu'elle entre en vigueur là à partir de maintenant. Ce qui se pose maintenant comme défi pour le régulateur australien, bah, c'est comment est-ce qu'on va la faire appliquer cette loi et comment on va faire qu'elle ne soit pas contournée par des esprits mal intentionnés.
Mmh. Mais un peu pour contrecarrer ça, le gouvernement a bien fait dans la loi de stipuler que si jamais il y a des contrevenants qui sont trouvés, c'est à la charge des réseaux sociaux. Il y a une amende qui est très très lourde. Donc ça a un peu une incitation pour les réseaux sociaux à faire quand même un petit peu attention plutôt qu'une question est-ce que j'ai plus de 16 ans, oui ou non, quoi.
Oui, tout à fait, Christian. Mais encore une fois, c'est aussi une manière pour l'Australie en tant que pays, en tant qu'État, de mettre en place des garde-fous par rapport à ces acteurs extra-étatiques. C'est pour ça que je mentionnais ces notions de level playing field, c'est-à-dire que trop longtemps, on a voulu faire peser la charge de la vérification sur l'utilisateur final, alors qu'en fait, cette vérification et cette obligation d'être au même niveau, hein, d'être sur ce level playing field, d'être au même niveau, cette obligation-là, de plus en plus, elle va être à la charge justement de ces acteurs extra-étatiques qui, eux, doivent prouver qu'ils se plient à un certain nombre d'exigences et de lois du pays. Et donc, et puis, de manière, j'allais dire, politique, de toute façon, il était impossible de faire peser à la fois la charge de la vérification, mais également la charge de la punition du côté de l'utilisateur, parce que ça aurait été grandement impopulaire. Et donc, c'est pour ça qu'effectivement, il y a de plus en plus de pression sur, depuis le régulateur, sur l'entreprise, sur le réseau social.
Et une toute dernière question, et après on va passer au deuxième sujet, dans la deuxième partie d'Europa Voice, mais est-ce que les grands gagnants de tout ça, ça va pas être les OpenAI et autres compagnies qui, eux, où est-ce qu'ils sont à l'origine du problème aussi, que la technologie a tellement évolué dans les 2-3 dernières années qu'il y a un peu un sentiment de perte de contrôle de ce qui est possible et ce n'est pas possible en ligne, et que là, le gouvernement se doit de mettre un peu les freins, tout simplement.
Ce qui est intéressant dans votre question, Christophe, comme d'habitude, c'est qu'en fait, on a aussi cette impression que justement, les gouvernements ont pris le pli de la révolution de l'intelligence artificielle. Et dans le discours ambiant, que ce soit dans l'Union européenne, mais aussi en Australie, on a par exemple ces derniers temps de grandes entreprises ou de grands groupes australiens que je n'ai pas nommés, qui ont signé des accords de collaboration, par exemple, avec OpenAI. C'est-à-dire que les entreprises et les gouvernants ont pris conscience de ce que cette révolution de l'intelligence artificielle va impliquer pour le futur de l'école, le futur du travail, le futur de la société en général. Et qu'en parallèle de cela, ils mettent aussi des barrières dans ce que la connectivité en général a de plus dangereuse. Et donc, il y a une espèce de mouvement push and pull des gouvernants d'aller dans le sens de ce qui sûrement est bénéfique pour la société et en même temps d'encadrer de manière plus rigoureuse ce qui ne semble pas être bénéfique pour la société ou en tout cas ce qui ne semble pas être fait de manière optimale pour être bénéfique pour la société. Donc en fait, ce mouvement par rapport aux réseaux sociaux, moi je trouve ce qui est intéressant en Australie, c'est qu'il est implémenté en parallèle d'une politique beaucoup plus proactive et j'allais presque utiliser le mot bienveillante vis-à-vis d'autres révolutions des contenus en ligne ou en tout cas de la technologie et notamment celui de l'intelligence artificielle.
Absolument, ça c'est une vraie belle affaire à suivre. On fait une courte pause et on se retrouve dans quelques instants. Ne partez pas, on va parler de budget d'argent en France et c'est peut-être un peu rébarbatif mais c'est tellement important pour le fonctionnement de l'économie dans quelques instants. Seconde partie d'Europa Voice, toujours avec Nathanaël Bloch. Vous êtes toujours avec nous, Nathanaël?
Toujours avec vous, Christophe, et encore plus puisqu'on va parler de budget.
Ah oui, alors ça, c'est, je sais que bon, alors vous êtes beaucoup plus intéressé à ça que moi. On va, ça, c'est les faits dans la réalité humaine. Mais ce budget de la France, il est discuté depuis un bon moment. Il a coûté la vie à un ou deux gouvernements, et il y a des grosses questions autour, tout simplement, de la sécurité sociale.
Alors c'est effectivement une épine hein, dans le pied du gouvernement le cornu, du gouvernement 2, le cornu, je devrais dire. On en est à ce qu'on appelle le projet de loi de finances de la sécurité sociale, donc le PLFSS pour les aficionados des questions budgétaires ici en Australie et pour nos auditeurs de RoboVoice qui nous écoutent à travers le monde. Ce qui se passe, c'est que les députés, l'Assemblée nationale, donc les députés à l'Assemblée nationale, ont dû voter en seconde lecture ce budget de la sécurité sociale. Et il y avait une espèce d'enjeu politique, c'est-à-dire que le gouvernement Le Cornu ne voulait pas utiliser le 49.3. Pourquoi, Christophe? Pour la simple et bonne raison qu'il voulait montrer que ce budget était, j'allais dire, voté, accepté de bonne foi et pas sous la contrainte gouvernementale, parce qu'il y a toujours cet aspect gouvernement versus Parlement. Et cet outil, il existe, hein, ce 49.3, il existe, il est prévu dans la Constitution, mais il donne effectivement l'impression d'une, j'allais dire, de mesures qui sont parfois non démocratiques dans le sens où elles ne sont pas acceptées au Parlement, mais le Parlement lui-même est contraint. Et donc là, ce qui s'est passé, c'est que les députés ont voté à 247 voix pour 234 voix contre, donc à une très faible majorité pour ce budget de la sécurité sociale. Donc c'est une victoire. Et il faut le mentionner, hein, on signale pas assez les trains qui arrivent à l'heure et peut-être pas assez pour le gouvernement Le Cornu 2, mais c'est une victoire et peut-être une première victoire pour ce gouvernement-là pour sortir de ce qu'on a appelé pendant des semaines et des semaines l'impasse budgétaire.
Et à quel point, alors là vous dites c'est une énorme victoire, mais à quel point c'est important?
Alors j'ai pas dit c'est une énorme victoire, j'ai dit c'est une victoire.
C'est une victoire. C'est une victoire. À quel point c'est énormément important? Alors, je vais dire pour le gouvernement, justement. Détaillons un petit peu ça. Parce qu'on sait que le gouvernement est vraiment sur le fil du rasoir. La majorité, elle se trouve vraiment, elle est flottante en plus sur les questions comme ça. On le voit. À quel point c'est important à ce, en gros, une des premières raisons, des votes marquants pour ce gouvernement?
Alors, encore une fois, il y a un aspect qui est vraiment politique sur ce vote-là du projet de loi de financement de la sécurité sociale. C'est qu'en fait, depuis 2022, on sait, hein, l'exécutif, le gouvernement d'Emmanuel Macron n'a plus de majorité à l'Assemblée nationale. Et donc, en fait, depuis 2022, chaque année, hein, puisque c'est un projet de loi budgétaire annuel, chaque année, l'exécutif, le gouvernement choisit de faire adopter les projets de loi de finances et le projet de loi de financement de la sécurité sociale avec le 49.3 de la Constitution. Donc, pour éviter un vote parlementaire et pour éviter un blocage. Et d'ailleurs, c'est ce qui avait fait que Michel Barnier, le prédécesseur de Sébastien Lecornu, lui-même avait chuté il y a à peu près un an de cela, en décembre 2024. Et donc, c'est extrêmement important parce que non seulement c'est la première fois en 3 ans que ça se passe de la sorte, c'est-à-dire avec un vrai vote et pas un 49.3, donc pas un évitement du vote parlementaire, mais surtout c'est important parce que s'il a réussi à faire voter ce budget, Sébastien Lecornu, c'est qu'avant il a dû négocier des compromis avec l'ensemble des groupes politiques et sur un certain nombre de mesures que les commentateurs qualifiaient de sensibles, au rang desquelles, et je ne vais pas rentrer en détail, mais la hausse de la CSG sur le capital, la suspension de la réforme des retraites, etc., etc. Et donc c'est en ce sens-là, même si l'information est mineure et restera mineure dans les livres d'histoire, c'est en ce sens-là que dans l'histoire politique moderne et de Macron 2, c'est une petite victoire pour Sébastien Lecornu et peut-être aussi une manière de limiter la casse. Et là, je fais un peu de projection politique, une manière de limiter la casse pour les municipales à venir et donc, in fine, de limiter la casse pour les présidentielles à venir dans 2 ans.
Ouais, c'était une de mes prochaines questions. Ça, est-ce que en mauvais français, le momentum, est-ce que ce momentum, est-ce qu'il peut être apporté et emmené dans le, en tout cas, la première partie de ce gouvernement?
C'est une vraie question. C'est-à-dire, est-ce que encore une fois, de quelle manière maintenant les prochaines élections intermédiaires, enfin notamment les municipales, vont être nationalisées? Ce qui est sûr, Christophe, c'est qu'on va suivre de très près le score, les résultats, pardon, de la France insoumise. On va suivre de très près les scores de la France insoumise dans les moyennes et grandes agglomérations, parce que ça aussi, il faut pas l'oublier, hein, c'est que pour la première fois, la France insoumise ou les écologistes ont la main sur certaines municipalités considérées comme de premier plan. Et donc, on va voir comment, en même temps, une certaine stabilité nationale, une certaine stabilité gouvernementale et peut-être aussi un ras-le-bol au sein de certaines municipalités vont faire que cela bénéficie ou pas au bloc central. Il y a déjà des projections. Par exemple, si je prends l'exemple de Strasbourg qui est assez parlant, la ville a longtemps été au sein des partis majoritaires, la gauche et puis la droite. Elle est tombée aux mains des écologistes aux dernières municipales. Et puis là, il semblerait que les écologistes soient loin derrière, mais ça ne bénéficie pas forcément au bloc central, ça bénéficie de nouveau au Parti socialiste. Donc c'est aussi ça l'interrogation. C'est est-ce que cette stabilité nationale, elle ne vient pas finalement trop tard pour que le bloc central et le parti ou le gouvernement d'Emmanuel Macron bénéficie aussi de bons résultats aux prochaines municipales. Et puis, il y a une autre question, Christophe, qu'il faut aussi se poser. C'est est-ce que Emmanuel Macron, il est plutôt dans une optique, après moi, le déluge, la technique de la terre brûlée, c'est-à-dire que finalement, il préfère ne pas avoir de dauphin et rester dans l'histoire comme celui qui aura cassé l'appareil politique classique, la droite versus la gauche, et puis fait son mandat, ou est-ce qu'il veut laisser un héritage, Renaissance, En Marche, et nommer officiellement un prochain dauphin, avec notamment en contexte le fait que on sait son inimité historique avec son ancien Premier ministre Édouard Philippe, et donc très certainement il ne lui laissera pas cette place de leader du bloc central. Donc vous voyez, il y a plein de pièces comme ça en mouvement, mais en tout cas ce qui est sûr, c'est que c'est une bonne chose pour le bloc central que ce projet de loi de financement de la sécurité sociale ait été voté.
Il a été voté à l'Assemblée nationale. Est-ce qu'il doit passer maintenant au Sénat et est-ce qu'il doit suivre son cours ou est-ce qu'il y a une voie raccourcie?
Ce qui s'est passé en fait là, c'est que les députés, ils l'ont déjà encore une fois adopté à la Chambre, enfin au Parlement, donc à la Chambre basse. Maintenant, ça va suivre son chemin classique. Ce qui aurait pu se passer, Christophe, c'est que c'est ce qu'on appelle, si je ne m'abuse, une commission mixte paritaire. C'est-à-dire que s'il y avait un blocage final, ça aurait été un certain nombre de députés et de sénateurs qui auraient ensemble voté ce texte-là, ou pas d'ailleurs. Mais là, en l'occurrence, le texte qui a été voté va devoir quand même encore passer par le Sénat. Donc, on n'est pas au bout du processus législatif. Mais c'est ce que je vous disais, hein, il suit maintenant la voie normal. Ce qui est possible, Christophe, c'est que le Sénat décide soit de rejeter le texte, soit de le retravailler. Mais de toute façon, il y a une date limite pour ces projets de loi de finances et ces projets de loi de financement, qui est la date du 23 décembre. Donc, de toute façon, l'Assemblée devra se prononcer pour valider un texte définitif, quoi qu'il en soit, quoi qu'il en coûte, au cours des prochains jours, parce que la guillotine, Christophe, est la veille de Noël. Donc, de toute façon, même si le Sénat veut le retoper un peu, le modifier, tout doit être empaqueté pour être mis sous le sapin avant le 23 décembre.
Eh bien, ce sera une belle affaire à suivre. Merci Nathanaël.
Merci Christophe.
Aimez, partagez, commentez. Suivez-nous sur facebook.com/sbsfrench.